Bonjour tout le monde, Marjorie Théodore avec vous aujourd'hui pour une autre émission de Vivement les femmes. Merci à vous de nous écouter sur les ondes de Canal M. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité, c'est le sort des enfants de la DPJ, Direction de la protection de la jeunesse, avec la journaliste Nancy Audet qui, à travers son livre « Plus jamais la honte », livre paru aux éditions de l'Homme, nous partage son histoire. Avec résistance, avec patience et avec l'élan que lui ont donné les anges sur sa route, elle a emprunté un parcours improbable qui l'a conduite au journalisme et plus récemment au marrainage de la Fondation des jeunes de la DPJ. Bonjour Nancy Audet.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Ah, vraiment un plaisir. Alors, Nancy, tout de suite, je vous amène à la première question qui est le sous-titre de votre livre qui parle le parcours improbable de Petite Poké. Racontez-nous, mettez-nous en contexte, racontez-nous justement votre enfance, le début de ce qu'on pourrait aussi appeler votre parcours de combattant.
En fait, d'aussi loin que je me souviens, j'avais petite toujours la peur au ventre. C'est quelque chose qui m'accompagnait tous les jours. Mon premier souvenir de maltraitance, j'avais presque 4 ans. Je me souviens que ma mère me lançait en bas des escaliers et c'est ma tête qui a pris le coup, mais ça a cogné extrêmement fort. Je n'arrivais plus à me lever. Et j'ai réussi à me traîner de peine et de misère jusqu'à ma chambre où je ne suis pas ressortie de la journée. Mon père partait toujours à la semaine. Il travaillait dans la forêt. Il partait le lundi matin, revenait le vendredi soir. Et c'est lui qui m'a trouvée le vendredi en revenant. Et j'étais en piteux état. Et il m'a pris dans ses bras. Il a couru à la voiture. Et on était à une trentaine de minutes de voiture quand même de l'hôpital le plus proche.
Okay.
Il m'a amenée là d'urgence où j'ai été hospitalisée. Les médecins étaient très inquiets, ont voulu appeler la police. Mon père a dû mentir pour pas par peur. Il me dit aujourd'hui, avec beaucoup de regret, je dois le dire, de ne pas avoir dit la vérité. Et finalement, bon, les médecins ont décidé de ne pas appeler la police. Tout a été correct. Et là, je suis retournée à la maison et la maltraitance a continué comme ça. Ça faisait partie de mon quotidien, de ma vie. Jusqu'à ce qu'une personne s'inquiète vraiment pour moi. Quand j'avais 9 ans, et que cette personne décide de faire un signalement anonyme à la Direction de la protection de la jeunesse. Et c'est là que je me suis retrouvée pour la première fois en famille d'accueil chez une femme, Rose-Aimée. Elle porte bien son nom.
Ouais.
Une femme très, très aimante, très sécurisante aussi, qui a accueilli une petite fille très, très blessée, physiquement, moralement, mais qui a bien pris soin de moi. Et ça m'a fait le plus grand bien. Et après, je suis retournée à la maison. Ça a été très, très difficile jusqu'à ce qu'à l'adolescence, je retourne encore en famille d'accueil. J'ai demandé moi-même, j'étais en centre jeunesse, j'ai demandé moi-même à retourner chez Rose-Aimée. Elle a accepté de me reprendre. Elle se souvenait de la petite Nancy et elle m'a repris. Elle m'a donné un bon coup de main encore une fois pour me remettre sur pied.
Okay.
Je lui dois beaucoup à cette femme.
Mm-hmm.
Donc, un début de vie plutôt difficile, mais je suis partie très tôt. J'ai été chanceuse parce que j'ai croisé des êtres humains bienveillants qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidée à me relever et à prendre confiance en moi assez pour qu'un jour, je décide d'entreprendre des études supérieures.
Ouais.
Ce qui était une grande victoire pour la petite fille de Saint-Dominique-du-Rosaire.
Ah oui, je comprends. C'est ce qu'on voit d'ailleurs tout le long de votre livre. Donc, que je reprécise, c'est que le parcours, comme vous avez dit, de 4 ans à 9 ans, alors vous étiez retournée dans votre famille, ensuite repartie en centre d'accueil et revenue par la suite. Alors, ça a été quand même des allers-retours entre votre famille et la famille d'accueil.
Mais en fait, moi, j'ai été chanceuse parce que j'ai fait la même famille d'accueil. Aujourd'hui, je parle à beaucoup d'anciens qui ont fait 5, 6, 7 familles d'accueil différentes. C'est difficile pour un enfant d'être déraciné à chaque fois. Moi, malgré tout, d'avoir une seule famille d'accueil, une famille sécurisante, ça m'a énormément aidée. Mm-hmm. Reste que la maltraitance laisse des traces. C'est encore très méconnu au Québec, les séquelles liées à la maltraitance, des séquelles qui continuent, hein, même rendues à la vie adulte. Toute notre vie, on va vivre avec ça.
Oui.
Hein, que ce soit la violence physique, les coups, mm-hmm. la violence psychologique aussi qui laisse des séquelles. Dans mon cas, je pense que ça a laissé de vives séquelles, de vives blessures. Mm-hmm. Tu sais, quand ta mère te dit continuellement, ben, avoir su que c'était toi qui étais dans mon ventre, je me serais fait avorter. C'est tellement violent, c'est tellement profond. L'enfant, dans son fort intérieur, finit par le croire,
oui.
que ça aurait été mieux qu'il ne vienne pas au monde.
Mm-hmm.
Donc, vous comprenez comment on a un manque d'estime, on pense qu'on vaut rien. Et ce que les gens ont parfois, je pense, la difficulté à comprendre, c'est que quand un parent manque d'intégrité envers son enfant, l'enfant n'arrête pas d'aimer son parent.
Oui, oui.
L'enfant arrête de s'aimer lui-même.
Mm-hmm.
Et ce manque d'amour envers lui-même, bien, c'est quelque chose qui va souvent et malheureusement le poursuivre toute sa vie, dans toutes ses relations,
mm-hmm.
qui va lui donner du mal à avoir un travail, à pouvoir s'épanouir même sur le marché du travail, s'épanouir dans sa vie personnelle, parce qu'il a une très piètre estime de lui-même.
Ouais.
Donc, c'est difficile de se relever de ça. Et pour ça, ben, il faut des bonnes personnes.
Ah oui.
Il faut des bonnes personnes, il faut des mains tendues, il faut aider ces jeunes-là, ces enfants-là, à reprendre confiance en eux, à comprendre qu'ils valent quelque chose et qu'ils ont droit eux aussi au bonheur.
Ouais. Ce que j'ai pu lire aussi dans votre livre, c'est que votre famille, malgré qu'elle a été dysfonctionnelle, elle a été elle-même famille d'accueil. Comment expliquez-vous ça?
Mais en fait, à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui.
OK.
À l'époque, c'est triste à dire, mais une personne qui appelait puis disait « Moi, je vais être famille d'accueil
Oui. »
48 heures après, il y avait des enfants dans la maison, là, ou presque.
OK.
Il n'y avait pas d'enquête de sécurité, il n'y avait
Mm-hmm.
pas de test psychologique, il n'y avait pas... Donc, c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs dérapages, vous le savez,
Oui,
et les familles d'accueil, encore aujourd'hui, ont une très mauvaise réputation parce qu'il y a des enfants qui ont subi, en plus d'avoir subi de la maltraitance dans leur foyer
oui.
biologique, se sont retrouvés dans des familles d'accueil inadéquates. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Hein, aujourd'hui, ma famille ne serait jamais famille d'accueil, je vous
C'est
le
ça,
confirme.
oui.
Parce qu'aujourd'hui, bon, ma mère avait un dossier criminel, donc déjà à la base, ça, aujourd'hui,
Oui.
on fait une enquête de sécurité.
Oui.
Donc, automatiquement, elle aurait été exclue. Elle aurait probablement pas passé non plus le test psychologique. Au niveau de la maison, on n'avait pas du tout ce qu'il fallait. Il y a un garçon qui a habité chez nous 2 ans, famille d'accueil. Il
Oui.
n'a jamais eu de chambre. Pouvez-vous le croire?
Oh,
Chaque
oui.
soir, ce petit garçon dormait à un endroit différent.
Mm-hmm.
Je pense à lui aujourd'hui, je me dis, pauvre garçon,
mm-hmm.
je le connais, on est en contact, j'adore ce garçon, c'est un homme aujourd'hui, il s'appelle Stéphane. Ce qu'il a traversé et le souvenir qu'il garde chez nous, vous imaginez? Mais bref, donc non, on n'aurait jamais dû être famille d'accueil. Ce qui est particulier, c'est quand, et nous, on a arrêté d'être famille d'accueil parce qu'il y a eu un signalement anonyme pour dire que je vivais de la maltraitance.
OK.
Vous voyez comment
OK. Oui, oui, oui.
c'est particulier comme histoire. Et après, ça a été terminé. On n'aurait plus jamais pu avoir d'enfants. Et heureusement pour les enfants.
C'est ça. Puis qu'est-ce qui a motivé votre mère? Parce que c'était une
l'argent.
Demande. C'était juste l'argent
Oui,
à ce
c'était juste
moment-là.
l'argent.
OK.
On n'avait pas du tout ce qu'il fallait pour prendre soin de ces enfants-là. On ne s'en occupait vraiment pas bien. J'ai parlé à plusieurs. On n'a pas été famille d'accueil longtemps. On a été famille d'accueil pendant 2 ans, mais toutes les personnes qui sont passées chez moi, malheureusement, et c'est triste,
Oui.
ne gardent aucun bon souvenir de leur placement.
Ah oui.
Ouais, et pourtant, c'est tellement important parce que ce sont des enfants. Quand tu arrives en famille d'accueil, tu es tellement fragilisé. Tu as besoin d'un endroit sécuritaire. Et ce n'était pas le cas,
Oui.
malheureusement.
Puis votre père, dans tout cela, comment qu'il était, comment qu'il agissait?
Mon père partait à la semaine.
Oui.
C'était pas un mariage d'amour, hein, c'était un mariage de raison. Mes parents se sont mariés à 18 ans parce que ma mère était enceinte.
Ah oui, oh, d'accord.
Il n'y avait pas vraiment d'amour, d'affection dans la maison.
Mm-hmm.
Et comme il partait toute la semaine, il revenait la fin de semaine. Et quand il revenait la fin de semaine, il était toujours parti. Je le voyais pas beaucoup, mon père.
OK.
Mais au moins, quand je le voyais, on avait quand même une belle relation. Il était gentil avec moi. Je me souviens que parfois, il prenait ma défense.
Oui.
Mais c'est lui qui mangeait les coups. Je me souviens très bien, je revois ma mère le frapper assez sévèrement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des
Oui.
choses qu'elle a faites qui étaient vraiment inacceptables. C'est un mariage malheureux, une
Malheureux.
famille malheureuse, une famille dysfonctionnelle, comme il y en existe encore beaucoup, hein. C'est pas parce
Tout
qu'on est
à
en
fait.
2022 que ça n'existe pas,
Bien
ça
au
existe
contraire, oui.
encore et il y en a encore beaucoup trop. C'est pour ça que j'ai publié le livre, vous savez,
Oui.
pour sensibiliser les gens à la maltraitance qui continue de gangréner notre société, qui continue de briser des enfants.
Oui.
Mais aujourd'hui, il faut en venir à l'évidence qu'il faut faire plus, il faut dire ça suffit. Il faut mettre en place des politiques, il faut s'investir
Oui.
pour que cesse la maltraitance, pour que ça continue, comme je dis, de gangréner notre société.
Oui, en effet. Restez avec nous, chères auditrices et auditeurs. Nous allons écouter une chanson choisie par notre invitée, justement Nancy Audet, Cœur de rocker de Julien Clerc.
J'avais déjà un cœur de rocker. Je n'aimais pas beaucoup l'école. Je ne vivais que pour mes idoles. Yeah, yeah, yeah.
Yeah, yeah, yeah.
Je n'étais encore qu'un teenager. Je suis parti vivre ma vie en outsider. Mon père voulait me retenir. Tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est tu vas faire mourir ta mère.
Nous voici de retour avec Nancy Audet, auteure du livre « Plus jamais la honte », publié aux éditions de l'Homme. Nancy, ce qui est quand même impressionnant dans votre livre, c'est que c'est toute cette reconnaissance que vous avez pour les personnes qui ont parcouru votre vie puis qui vous ont aidé. C'était important de les reconnaître autant et de continuer. Vous l'avez fait au micro tout à l'heure.
Oui, parce que pour deux raisons. D'un, je ressens une grande gratitude. Mm-hmm. Je suis consciente que sans ces personnes, je ne serais pas assise devant vous aujourd'hui.
Oui.
J'ai eu des idées noires pendant longtemps. C'est pas un secret, j'en parle dans le livre. J'ai fait une tentative de suicide. Heureusement, je n'ai pas réussi à m'enlever la vie parce que je serais passée à côté de très, très belles choses. Mm-hmm. Je suis très heureuse d'être en vie aujourd'hui, de pouvoir ressentir un vrai bonheur. Pendant longtemps, j'ai pensé que ce n'était pas possible pour moi, ce n'était pas accessible.
Ouais.
Donc, si j'ai réussi à atteindre un niveau de bien-être, de paix intérieure, c'est parce que j'ai croisé des êtres humains absolument extraordinaires qui ont cru en moi quand moi, je ne croyais pas en moi-même.
Ouais.
Des gens qui ont été d'une immense générosité. Mm-hmm. Des gens qui m'ont accueilli dans leur maison, notamment pendant mes études en journalisme, totalement, gratuitement.
Mm-hmm.
Juste par... Des fois, je leur dis, mais pourquoi?
Oui.
Pourquoi tant d'amour? Tu sais, mais parce qu'on on a vu quelque chose en toi,
oui.
on t'aimait, on s'est attaché à toi. Ben, c'est Manon et Roger, je peux oui. les nommer. Qui aujourd'hui, ben, c'est comme mes parents adoptifs. Hein. Je suis très, très près d'eux. On continue d'être très proches. Ils s'occupent beaucoup de ma fille aussi. Ce sont les grands-parents de Luna. Ce que je veux envoyer comme message, c'est que j'en côtoie beaucoup de petits garçons et de petites filles hypothéquées à cause de la maltraitance.
Mm-hmm.
Et je sais que pour eux, la différence... Ou ceux qui peuvent faire la différence, c'est les gens qui les entourent.
Oui.
C'est vous, c'est moi,
mm-hmm.
c'est le voisin, c'est le professeur, c'est l'entraîneur de basket.
Oui.
Il ne faut jamais sous-estimer la main tendue,
oui.
la différence qu'on peut faire dans la vie d'un enfant. On peut planter une graine et parfois, sur le coup, on pense que ça ne donne rien.
Mm-hmm.
Mais dans le temps, on ne sait jamais quand ça va fleurir.
Mm-hmm.
Vous savez, moi, quand j'avais 7 ans, ma mère m'amenait toujours chez un voisin pour qu'il m'abuse sexuellement en échange de quelques dollars. J'étais dans un état de grande, grande détresse.
Oui.
J'arrivais à l'école, je fuyais constamment. J'étais très agressive avec les autres élèves. J'étais en détresse.
Oui.
Et on m'a mis à la porte de l'école. Un enfant de 7 ans doit aller à l'école. Finalement, on m'a envoyé au village d'après. Plus loin. Et c'est une professeure, une enseignante qui m'a accueillie, qui s'appelle Monique.
Mmh.
Monique, elle n'avait pas envie de m'avoir dans sa classe. Là. Elle avait déjà 20 élèves. J'étais une élève de trop.
Oui.
Elle m'a raconté qu'elle était découragée quand le directeur lui a dit qu'elle devait m'accueillir.
Mmh.
Mais elle a pris le téléphone pour comprendre pourquoi.
Mmh.
Pourquoi on m'envoyait, là, de la petite fille de l'autre village. Et il y a quelqu'un qui a été honnête avec elle, qui lui a dit que je traversais de grandes difficultés.
Oui.
Et Monique a pris la décision de me prendre sous son aile. Je ne savais presque pas lire.
Mm-hmm.
J'étais en retard. Je me dirigeais vers un échec. Elle a mis mon bureau devant le sien. Et pendant 6 mois, elle a pris soin de moi.
Mm-hmm.
J'ai rattrapé tout le retard.
Wow.
J'ai appris à lire. Et à la fin de l'année scolaire, elle me disait que j'étais tellement bonne qu'elle me demandait d'aider les autres élèves de la classe
oui.
en lecture.
Mm-hmm.
Elle me valorisait et chaque fois que j'allais près d'elle pour qu'elle corrige ma copie, elle me laissait jouer dans ses cheveux.
Oh.
Et elle me disait, au départ, j'étais un peu mal à l'aise, mm-hmm. mais je me suis rendu compte que ça te faisait du bien et que tu avais besoin de cet amour, de cette mm-hmm. affection et je me suis beaucoup attachée à toi.
Mm-hmm.
Monique, en 6 mois, elle a changé ma vie.
Oui.
Vous voyez, elle a transformé le vilain petit canard en une petite fille qui savait lire. Elle mm-hmm. a développé une passion pour la lecture chez moi,
oui,
une
oui.
passion que j'ai encore aujourd'hui.
Mm-hmm.
Et je suis convaincue qu'il n'y aurait pas le livre devant vous si je n'avais pas croisé Monique Comté. Donc,
oui.
Monique, aujourd'hui, elle avait aucune idée de l'impact qu'elle avait eu dans ma vie.
Oui,
donc, je dis aux gens... N'oubliez pas l'impact que vous pouvez avoir dans la vie des enfants.
Mm-hmm.
Puis le petit enfant que vous refusez d'inviter à la fête d'amis dans votre maison, eh bien, c'est celui que vous devriez inviter.
Oui.
C'est le premier qu'on invite parce que ces enfants ont besoin d'îlots de bonheur,
mm-hmm.
ont besoin de voir que, qu'une maison où, où c'est beau, où c'est sain,
mm-hmm.
ça existe. Si on ne montre pas aux enfants que ça existe, une famille, vous comprenez, où
oui.
il y a de l'amour, où il y a du respect, où est-ce que vous voulez qu'ils apprennent ça?
Mm-hmm.
Donc, ouvrons notre porte plus facilement. C'est ça que j'avais envie d'envoyer comme message avec ce livre. J'espère que j'y suis arrivée.
Tout à fait.
Mais c'est mon espoir que les gens soient plus nombreux
oui.
à ouvrir leurs portes.
Puis, pour faire suite à ce que vous dites, c'est que dans votre livre aussi, vous parlez, lorsque Manon vous dit, vous êtes la fille qu'elle aurait aimé avoir, vous ne l'avez pas cru, vous avez dit que vous l'avez cru que 25 ans après. Alors, on voit aussi toute cette patience, cette compréhension pour établir la confiance avec l'enfant qui arrive, qui est démuni, perdu. Donc, il y a aussi ce qu'on retrouve dans votre livre, de dire, soyez patient aussi lorsque vous accueillez, parce que ce n'est pas tout de suite que la confiance s'établit.
C'est long. C'est long, il faut être patient. Donc, c'est un geste qu'on fait par amour de l'autre.
Oui.
Hein, je vois aussi que des fois, les gens, surtout avec les enfants de la DPJ, on s'attend à un retour immédiat.
C'est ça.
Mais il faut comprendre que ces enfants ont été blessés au plus profond de leur âme. Ils ne font plus confiance à l'adulte.
Oui.
Donc, ça prend de la patience. Mais une fois que ces enfants s'attachent à vous, une fois qu'ils ont compris qu'ils pouvaient vous faire confiance, il y a quelque chose d'absolument magnifique qui va naître de cette relation.
De la relation.
Mm-hmm. À partir du moment où l'enfant sait que vous n'allez pas le laisser tomber,
oui.
De le voir grandir, évoluer sous vos yeux, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Il y a des familles d'accueil qui me racontent que quand un enfant entre chez eux, il regarde par terre, il est complètement refermé sur lui-même. Ils sont incapables de communiquer avec lui.
Mm-hmm.
Et un an plus tard, il se tient droit,
s'ouvre, ouais.
Il sourit, il a les yeux brillants. Et que parfois, les gens qui le croisent ne reconnaissent pas l'enfant. Ils disent « Non, c'est le même enfant que l'année passée. Là. Ouais. Il est arrivé il y a un an
mm-hmm.
et les personnes sont subjuguées.
Ouais.
Il y a même un changement physique chez l'enfant.
Oui.
Mm-hmm. Un enfant qui se sent en sécurité, un enfant qui se sent aimé,
ouais.
tranquillement, pas vite, va reprendre confiance.
Exactement.
Et c'est beau. C'est absolument magnifique.
Et il s'ouvre.
De le voir s'épanouir, de le voir s'ouvrir de cette
ouais.
façon.
Ouais. Je vous amène à une autre période aussi de votre vie. Je vais lire un passage de votre livre, page 158. Alors, obtenir un grade universitaire est une réussite en soi. Le faire avec des résultats comme les vôtres constitue un exploit. Vous faites partie de l'élite de la promotion de cette année et nous sommes particulièrement fiers de vous avoir compté parmi nous. C'était signé par Tibor Egervary, le doyen de la Faculté des arts de l'Université d'Ottawa. Donc, la question que j'aimerais vous poser, vous avez été malmené, mal aimé, trimballé, puis vous avez réussi à faire des études supérieures. Où avez-vous puisé votre force?
Ça me rend très émue parce qu'avec le recul, je me rends compte que ça a été un miracle, non seulement l'Université d'Ottawa, mais aussi la Sorbonne Nouvelle
oui.
à Paris,
mm-hmm.
où je suis allée étudier. Ça a été des études exigeantes. J'ai dû aller puiser au plus profond de moi parce que chez nous, l'éducation, ce n'était pas important.
Oui.
On ne parlait jamais de politique. On ne lisait pas à la maison. Il n'y avait pas de livres à la maison.
Mm-hmm.
Donc, je partais de très, très loin.
Oui.
Et encore là, ce sont les personnes qui ont cru en moi, qui m'ont dit, Nancy, tu dois étudier.
Mm-hmm.
Tu dois aller à l'école parce que l'éducation, c'est ta porte de sortie.
Oui.
Et on m'a répété ça, répété. Mm-hmm. On me disait que j'étais capable. Je n'y croyais pas. Et à force de me le répéter, et je remercie ces personnes de m'avoir fait croire que c'était accessible, je pouvais y arriver.
Mm-hmm.
Mais si personne plante encore cette graine dans ton cœur, dans ton esprit, ça peut pas naître, ça peut pas grandir.
Oui.
Donc, j'ai fini par le croire et j'ai compris aujourd'hui, c'est vrai que l'éducation est une porte de sortie. Mm-hmm. Et je le répète constamment, vous savez, il y a seulement entre 17 et 25 % des enfants qui sortent du système de la DPJ avec un diplôme d'études secondaires.
Oui, oui.
C'est inquiétant. Mm. C'est 77 % dans la population.
Mm-hmm.
Vous imaginez, on n'arrive pas à éduquer ces enfants-là. Ce mm-hmm. sont déjà des enfants qui partent avec une longueur de retard, qui sont hypothéqués, mais en plus, on les envoie à la rue à 18 ans,
oui.
sans éducation, mm-hmm. sans métier. Ils sont on les envoie à la rue et ils sont vulnérables.
Exactement.
Moi, j'ai envie de lancer un appel pour dire, il faut que ça cesse. Il faut qu'on trouve une façon de permettre à ces enfants d'étudier,
mm-hmm.
hein, de les éduquer. Parce que pour moi, ça a été une porte de sortie, mais c'est une porte de sortie pour tous les enfants de la Direction de la protection de la jeunesse
mm-hmm.
qui n'ont souvent pas de réseau, qui n'ont souvent pas de famille pour les soutenir.
Oui.
Donc, c'est un côté, il faut qu'on améliore. Il faut mm-hmm. absolument qu'on améliore ça. Il faut qu'on trouve une façon de leur permettre d'étudier.
Oui. D'ailleurs, on va en parler après la pause parce que aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, mais le ministre Lionel Carman vient de faire un pas encore suite à la commission Laurent. Donc, on va en parler parce que justement, la suite des études, même qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que au moins ils aillent jusqu'au secondaire 5, ce serait en tout cas un choix de société, mais une action à faire dans notre société. On va s'arrêter pour quelques minutes et puis on va revenir avec le sujet par la suite.
Écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore.
Je suis toujours en compagnie de Nancy Audet, journaliste. Donc, Nancy, justement, on parlait du fait que les jeunes devraient poursuivre leurs études. Aujourd'hui, on avait le dépôt, ou plutôt une mise en action du ministre Lionel Carman suite à la commission spéciale là, sur le droit des enfants, la commission Laurent. Dans cette commission, vous avez témoigné, et puis ça faisait suite au drame de la fillette de Granby. C'est sûr qu'aujourd'hui, on enregistre et puis on vient de faire un pas dans les recommandations. Mais est-ce que selon vous, ça a donné des résultats ou ça va donner des résultats?
Mais je l'espère. j'essaie de garder espoir.
Mm-hmm.
C'est sûr qu'on a souvent eu des promesses qui n'ont pas été tenues.
Mm-hmm.
Donc, on a toujours des doutes. D'ailleurs, on nous parlait de peut-être obtenir de l'argent en 2023-2024.
Oui.
Vous voyez, ça nous amène encore très loin.
Oui.
On s'en souviendra plus en 2023-2024, alors que les besoins sont urgents.
Mm-hmm.
C'est aujourd'hui. Mm-hmm. Au moment où je vous parle, il y a encore des jeunes qui sortent du système avec un sac à poubelle et quelques vêtements à l'intérieur.
Oui.
Et qui se retrouvent dans une situation de grande vulnérabilité.
Mm-hmm.
Donc, des jeunes qui n'ont pas d'éducation, des jeunes qui n'ont pas de réseau. Donc, quand on les met à la rue, il y en a beaucoup, beaucoup trop qui se retrouvent en situation d'itinérance.
Oui.
Et ça amène plein d'autres problèmes, hein, vous savez.
Mm-hmm.
Ça amène des problèmes de consommation, ça amène des problèmes de santé mentale. Ce sont des jeunes qui ont encore besoin de soutien. Quand je parle, j'ai beaucoup d'amis, moi, qui ont des enfants qui habitent encore à la maison à 23, 24, 25 ans même, parce que les enfants ont encore besoin de leurs parents. C'est difficile, surtout à Montréal, en plus d'avoir un emploi, de payer ton loyer. On connaît le prix des logements, ça a explosé et tout. Donc, de voir que ces jeunes-là, alors qu'ils n'ont pas donc de réseau, on les envoie à la rue comme ça, ça brise le cœur.
Oui.
J'en côtoie beaucoup. Et on doit faire mieux.
Oui.
On doit faire mieux, c'est urgent d'agir. Ça fait plusieurs années qu'on le dit. Je parlais avec Dan Bigra, qui, vous savez, s'implique beaucoup avec l'itinérance, qui a le show du refuge.
Oui.
Et il me disait, Nancy, mais peux-tu dire à la DPJ d'arrêter de nous en produire en amont? Chaque année, on les voit arriver par centaines, par dizaines.
Oui.
Il faut que ça cesse. Mais je suis d'accord avec lui. Il faut que ça cesse. On doit soutenir ces enfants. Ce sont nos enfants, vous savez.
Ben oui.
Ce sont aussi nos enfants. Il faut en prendre soin. Et on n'en a pas parlé. Mais il y a beaucoup d'enfants des minorités.
Oui.
Beaucoup trop.
Oui.
C'est triste, mais pourquoi? Pourquoi on ne sait pas prendre soin de ses enfants? Et donc, ça m'interpelle beaucoup. Et moi, personnellement, je vais continuer d'utiliser ma voix pour exiger des services pour ses enfants. Ils le méritent.
Oui.
Et on est tous gagnants. Parce que ce sont de jeunes adultes qui vont avoir du mal à s'épanouir, des enfants qui vont avoir de jeunes adultes qui vont avoir du mal à avoir un emploi, à contribuer aussi à la société. Mais derrière ça, il y a aussi un coût humain qui, à mon sens, on peut parler d'argent, vous et moi, parce qu'on n'arrête pas de me dire « oui, mais ça coûte cher, oui, mais la maltraitance coûte 4 milliards de dollars par année au Québec. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport, c'est à la fin du rapport de la Commission Laurent.
Oui.
Donc, peut-être que si on agit en amont en offrant de vrais services et ce dont les enfants ont besoin, bien, on va tous être gagnants, là. On
peut se retrouver
avec des adultes épanouis qui arrivent à contribuer à la société.
Oui, puis c'est un choix de société parce que lorsqu'on regarde un peu dans ce que Lionel Carman a mentionné, donc c'est encore mandaté un comité national de coordination et puis l'aide au loyer, l'accompagnement à la scolarisation, un revenu garanti, meilleur accès aux services de santé. Mais ce qui est désolant, c'est qu'on nous dit, mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui vont pouvoir y accéder. Puis quels seront les critères pour y accéder? Parce que normalement, tous les jeunes auraient dû avoir droit.
Je deviens impatiente.
Oui.
Parce que pourquoi un autre comité? Pourquoi encore perdre du temps? On a payé une commission d'enquête avec 10 commissaires pendant 2 ans. Ça nous a coûté extrêmement cher. Il y a des dizaines d'experts. Des dizaines de personnes qui sont venues témoigner. On le sait très bien ce qui ne va pas. On le sait, c'est écrit noir sur blanc. On a un rapport de 500 pages
voilà,
qui nous dit voilà ce qui ne va pas et voilà ce qu'il faut faire. Pourquoi on a encore besoin d'un comité? Prenons cet argent-là, prenons ces ressources-là puis donnons-le aux jeunes.
C'est ça.
On le sait ce qu'il faut faire. Il y en a des choses qui fonctionnent. Vous savez, à Laval, on ouvre ce mois-ci un bloc appartement, des appartements pour des anciens de la DPJ de 18 à 30 ans. On s'assoit avec eux et on établit un projet de vie avec eux. C'est quoi votre projet? Mon projet, c'est de retourner aux études. Bien, tu vas avoir un appartement, on va t'aider à faire ton budget, on va t'apprendre à cuisiner. Tu vas avoir un intervenant qui va être là pour continuer à t'appuyer dans ta transition. C'est merveilleux. Ça fonctionne, c'est de ça dont ils ont besoin.
Oui, une action concrète.
D'une action concrète. Arrêtons de parler, arrêtons de s'asseoir dans une salle pour je ne sais pas se dire quoi. On le sait, c'est le temps de passer à l'action. On le sait ce qu'on doit faire.
Oui.
Donner de l'argent aux bonnes personnes. Et il y a des gens qui ont beaucoup d'expertise au Québec et qui savent très bien quoi faire pour ces jeunes.
Non, sans aucun doute. Est-ce que, Nancy, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir eu la commission Laurent, la conscience citoyenne a été plus stimulée, ils sont plus conscients?
Je sais pas. Vous savez, moi, je suis allée à la commission, j'ai témoigné. J'ai écouté aussi beaucoup les témoignages. Il y avait très peu de journalistes dans la salle. Ça m'a peinée. Il y a eu d'autres commissions d'enquête au Québec où la salle était bondée tous les jours de journalistes.
Ouais.
Là, on vient parler de nos enfants, du sort de nos enfants les plus vulnérables. Et il y a très peu de journalistes que ça intéresse. Moi, ça m'envoie un signal que c'est peut-être le temps de revoir nos valeurs en tant que société.
Ouais.
Donc, je pense que dans les derniers mois, on en parle de plus en plus. On entend des histoires d'horreur souvent.
Oui.
Mais au moins, je pense que tranquillement, pas vite, on éveille les consciences, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire.
À faire, oui. Oui. En tout cas, vous, Nancy, vous n'arrêtez pas de poser des actions concrètes. Vous êtes, vous avez un rôle de marraine à la Fondation des enfants de la DPJ. Et puis donc, concrètement, quelles sont vos tâches, vos responsabilités de marraine?
Ma responsabilité, c'est vraiment d'appuyer la Fondation.
Oui.
De faire connaître la Fondation à plus grande échelle. La Fondation est devenue une fondation provinciale en novembre, je crois.
OK.
Et ça, pour moi, ça me tenait vraiment à cœur parce qu'il y a beaucoup de régions au Québec où il n'y a pas de service, où il n'y a pas de fondation pour les jeunes de la DPJ. Donc, on va pouvoir venir en renfort dans ces régions et aider les enfants.
D'accord.
Notamment en Abitibi, Témiscamingue.
Oui.
Où là-bas, je suis originaire de l'Abitibi et c'est l'endroit où il y a le plus haut taux de signalement au Québec. Donc, on va pouvoir venir aider. Donc, j'incite les gens à faire des dons, à venir nous donner un coup de main. La Fondation a mis en place une soixantaine de programmes pour aider. Il y a des programmes de tutorat parce que, comme je le disais, au niveau de l'éducation, c'est une problématique. Il faut s'y attaquer. On veut faire partie de la solution. Il y a aussi des bourses d'études pour les enfants qui arrivent à obtenir un diplôme d'études secondaires. On veut les aider à aller au cégep. On veut les aider à aller à l'université. Il y a de la zoothérapie. On les aide à faire du sport. On les aide à suivre des cours d'art plastique, à suivre des cours de musique. On veut leur offrir des opportunités. Comme un enfant qui a un papa puis une maman là, qui a la chance d'aller au musée, qui a la chance d'aller voir un match de soccer, qui a la chance de jouer au basket. Bien, on veut offrir les mêmes opportunités à ces enfants. Donc, à la Fondation, on travaille extrêmement fort depuis quelques années pour bâtir plusieurs programmes qui, réellement, vont faire la différence dans la vie des enfants.
Oui.
Et on fait la différence déjà. On a tellement de beaux témoignages d'enfants. Par exemple, il y a un garçon, il n'arrivait pas à suivre son cours de conduite. C'était important pour lui, pour la suite de sa vie, parce qu'il a besoin de son permis de conduire pour travailler. Donc, on lui a donné un coup de main pour qu'il puisse suivre son cours. C'est des petits gestes comme ça, ici et là, qui, dans la vie d'un enfant, fait la différence. Et je vais toujours continuer à être là et à appuyer la Fondation. Et surtout, moi, j'invite les gens à passer à l'action. C'est une façon de le faire.
Oui.
C'est de passer à l'action et de pouvoir les aider. Parce que ce qu'on fait, et je parle notamment de la zoothérapie, on a un chien d'accompagnement qui vient dans les centres de réadaptation. Et c'est magnifique de voir les enfants, la réaction quand ils voient le chien. Immédiatement, ça les calme. Quand ils caressent le chien, c'est un chien aussi qui parfois va accompagner les enfants qui doivent aller témoigner à la cour.
Oui.
C'est des témoignages qui sont difficiles. Ils vont devoir témoigner parfois contre des membres de leur famille. Donc, le chien peut les accompagner. Ça les sécurise énormément. Donc, c'est juste pour vous donner une petite idée de tout ce qu'on fait. Et on ne compte pas arrêter. Au contraire, on a envie de faire encore plus dans les prochaines années et on a besoin de soutien.
De soutien. Donc, c'est la Fondation des enfants de la DPJ. Hein?
C'est la Fondation des jeunes de la DPJ.
Des jeunes.
Vous pouvez facilement trouver le site Internet. Et vous allez voir, c'est très facile de venir voir tout ce qu'on fait. Tous les programmes sont bien décrits. Et vous pouvez faire un don, bien sûr, via la page Internet de la Fondation des jeunes de la DPJ.
D'accord. Et les actions, son mandat est quand même au Québec.
Provincial maintenant, oui, depuis quelques mois. Mm-hmm. Et on a lancé, il y a 2 semaines, un appel au projet. Partout à travers la province, on invite les gens à nous écrire, que ce soit les fondations locales. Nous, on veut travailler en équipe. Hein, on ne va pas prendre la place des fondations locales. C'est important de le dire. Mm-hmm. Nous, on veut travailler en équipe. Si vous êtes une fondation, vous avez une fondation, vous êtes à la tête d'une fondation, par exemple, en Beauce, okay?
Oui.
Ou à Sherbrooke, peu importe, que vous avez un projet, mais que vous avez du mal à obtenir tout l'argent nécessaire pour le mettre en place, mm-hmm. bien, envoyez-nous votre projet et nous, on va essayer de venir en renfort pour vous aider. C'est ça qu'on veut faire.
Wow.
On veut qu'il y ait plus d'initiatives dans les communautés, mm-hmm. dans les régions, partout à travers le Québec, parce que les problèmes liés aux enfants
oui.
de la DPJ, ben, c'est partout au Québec.
C'est partout.
Hein. C'est
oui.
partout.
Alors, Fondation des jeunes, des enfants de la DPJ. Alors, nous allons écouter une autre chanson, mais adorée par Lona, qui est la fille de Nancy. Alors, pour toi, Lona, la chanson « On écrit sur les murs » de Kids United.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines.
On dessine tout ce que l'on voudrait dire.
Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards.
Donnons-le écrit, car dans la nuit,
tout s'efface.
Mélangeons de l'un dans un refrain nos visages
métissages.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime.
Pour les jours à venir,
on écrit sur les murs à l'encre de nos veines.
On dessine tout ce que l'on voudrait dire.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime.
Alors Nancy, nous continuons avec vos actions. Vous êtes devenue grande sœur de 2 jeunes garçons ivoiriens qui vivaient près de chez vous. Vous êtes ensuite devenue mère de Lona. Vous avez réussi à briser le cycle de la violence faite aux enfants. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que d'autres n'y arrivent pas?
Les mains tendues.
Ah oui.
Parce que, comme je le disais tantôt, je pense à Anthony Calvillo.
Mm-hmm.
Il a raconté, Anthony Calvillo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'ancien quart arrière des Alouettes de Montréal.
Okay.
C'est un joueur de football américain qui est venu jouer ici.
Mm-hmm.
C'est le meilleur quart arrière de l'histoire des Alouettes de Montréal. Anthony racontait que son père était très violent
oui.
avec sa mère. Il battait sa mère Et il était très agressif avec ses enfants. Anthony, c'est le modèle qu'il avait. Et à l'adolescence, il a commencé à jouer au football et il a rencontré un entraîneur qui a changé sa vie et qui a commencé à l'inviter chez lui pour souper. Il voyait qu'Anthony, c'était difficile pour lui à la maison. Et Anthony était étonné de voir que son entraîneur traitait sa femme avec amour, avec respect, la complimentait, respectait aussi ses enfants, leur demandait comment était ta journée à l'école. Et il racontait que un jour, il a réalisé que lui, il voulait être comme son entraîneur. Il ne voulait pas être comme son père. Et il est devenu un homme bon, un homme comme son entraîneur, un homme de famille, un homme aimant, respectueux. Mais c'est ça, si on ne donne pas l'opportunité à la personne de sortir de ce cycle de violence, si on ne lui donne pas l'opportunité de voir autre chose, il est là de danger. Et malheureusement, au Québec, il y a beaucoup de gens qui reproduisent le cycle de violence, ce qu'on appelle le cycle intergénérationnel. Et il faut le briser. Mais si on n'aide pas la personne à briser ce cycle-là, c'est difficile, c'est dangereux. Donc, moi, ça m'attriste toujours de savoir qu'un ancien de la DPJ qui a des enfants, bien, ensuite se fait enlever à son tour ses enfants. Il faut donc... Mais c'est notre échec à nous. Vous savez, c'est notre échec parce qu'on n'a pas su bien prendre soin d'eux et leur donner les services dont ils avaient besoin pour briser ce cycle-là. Donc, comment on peut faire en sorte qu'on ait plus d'histoires de succès? Bien, il faut trouver des nouvelles façons. Ce qu'on fait actuellement, ça ne fonctionne pas. Et moi, je dis, il faut essayer autre chose. Il faut sortir des sentiers battus. Il faut être innovateur et il y en a plein de possibilités.
Je voulais vous poser la question, est-ce qu'il y a une différence entre un homme et une femme? C'est-à-dire, est-ce que c'est plus facile de briser le cycle de la violence par une femme? Mais ce que vous venez de dire, c'est ça dépend vraiment des gens, des modèles.
Mais c'est sûr.
C'est ça.
Tout est là. Ce sont les modèles qui font la différence. Si on a grandi... dans un milieu très violent et qu'on n'a pas eu la chance de voir autre chose, il est là le danger. Donc, il faut agir. Il faut agir en amont. En Beauce, en ce moment, on travaille sur un magnifique projet. En fait, c'est pas moi. Ce sont des amis que je respecte énormément. Des femmes de cœur qui ont décidé de travailler sur un projet pour ouvrir une maison mère-bébé. C'est-à-dire quand il va avoir un signalement où on juge que l'intégrité du bébé est en danger. Au lieu de retirer le bébé, on va inviter la maman à venir vivre dans cette maison-là et on va l'aider, la maman, à briser le cycle. On va lui permettre d'aller chercher de nouveaux outils parce qu'on veut que le bébé reste avec sa maman. Peut-être qu'elle n'a pas eu la chance de croiser des gens qui lui ont permis d'acquérir ces outils parentaux dont on a besoin. Donc, on va offrir un endroit sécuritaire où habiter avec des services multidisciplinaires pour aider la maman à garder son bébé puis éventuellement lui permettre de voler de ses propres ailes et de devenir une maman outillée. Ça, pour moi, ça me parle beaucoup. Donc, c'est le genre de projet, quand je vous dis, il faut être innovateur. Il faut essayer de nouvelles choses. Moi, j'aime, ça me plaît de savoir qu'on va permettre à un bébé de rester avec sa maman. Vous savez, un jour, on m'a demandé, Nancy, est-ce que tu aurais aimé avoir d'autres parents? Et je dis, non. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est avoir des parents heureux, avoir des parents épanouis, des parents qui avaient les outils pour m'aimer, pour prendre soin de moi. C'est ce que j'aurais souhaité. De tout mon cœur. Mais comme eux aussi ont justement eu du mal à briser le cycle, ça n'a pas été possible. Mais pour moi, ça va demeurer probablement ma plus grande victoire d'avoir réussi à briser le cycle. De toute façon, je n'aurais jamais eu d'enfant si je n'avais pas eu la certitude que j'allais être en mesure de l'aimer et d'avoir, de ressentir cet amour inconditionnel et être en mesure d'en prendre bien soin.
Je continue là-dessus parce que je trouve, dans votre livre, vous relatez très bien toute l'émotion lors de votre accouchement qui vous a envahi lorsque Lona est venue au monde. J'aimerais vous demander, est-ce que ce rôle vous amène à vous dépasser régulièrement? Alors, comment vous le vivez? Ça fait déjà 5-6 ans, mais quand même.
Lona vient d'avoir 6 ans. En fait, ça m'a complètement transformée. Mm-hmm. Oui. J'avais déjà fait beaucoup de chemin, je crois, avant la naissance de Luna, mais depuis qu'elle est arrivée, je suis une nouvelle personne.
Oui.
Je pense que cet amour m'a donné vraiment le désir, le goût de devenir une meilleure personne,
mm-hmm.
de devenir la meilleure version de moi-même.
Oui.
Ça m'émue beaucoup parce oui. que j'aimerais que toutes les personnes qui ont la chance de devenir parents, parce que devenir parent, c'est un privilège.
Mm.
On l'oublie parfois.
Mm.
C'est un privilège qui vient avec de grandes responsabilités. C'est pas une décision qu'il faut prendre à la légère.
Mm-hmm.
Élever un petit être humain, c'est difficile. Et moi, ça m'a donné vraiment des ailes. J'ose constamment me remettre en question et me demander, sans que ce soit une obsession, je vous rassure, mais j'hésite pas à me remettre en question et de voir qu'est-ce que je peux faire toujours de plus. Et ce que j'ai appris de très précieux avec Manon, qui m'a accueillie pendant des années sous son toit, c'est on peut parler autant qu'on veut. C'est facile de dire « je t'aime
oui. »,
mais il n'y a rien qui parle plus qu'un geste.
Mm-hmm.
Et j'essaie dans mes gestes, surtout dans mes gestes, de lui apprendre l'amour, le respect des autres.
Mm-hmm.
Je sais qu'elle a toujours un regard vers moi, de la façon que je traite les autres,
oui.
de la façon dont j'interagis avec les autres. Et quand je la vois derrière, après, refaire ses gestes,
oui.
ça pour moi, ça parle,
vous avez gagné.
Ça parle beaucoup plus. Oui. On a beau dire un million de fois, j'ai beau lui dire un million de fois que je l'aime, mais je dois surtout lui montrer par des gestes au quotidien, en prenant soin d'elle, qu'elle est importante pour moi et qu'elle est la priorité dans ma vie.
Oui.
Et tu l'as dit, je suis grande sœur.
Oui.
D'une adolescente et de deux garçons.
C'est ça, oui.
Et c'est ce que j'essaie de leur montrer
oui.
dans mes gestes, que je suis là pour eux.
Pour eux, oui.
Aziz, depuis 10 ans maintenant, mm-hmm. ça fait longtemps. Il avait 8 ans et il vient de célébrer ses 18 ans.
Ah, oui, oui.
Et on est plus proches que jamais.
Mm-hmm.
J'aime beaucoup cet enfant et on grandit beaucoup ensemble.
Oui.
Dans le mentorat, là, j'ai dit aux gens, là, mm-hmm. oubliez pas hein, que dans une relation avec un enfant, qu'on décide de devenir grand frère, grande sœur ou mentor, on grandit autant que l'enfant
oui.
dans cette relation.
En effet. Puis, est-ce que vous parlez ouvertement à votre fille de votre parcours ou elle est encore trop jeune?
Non, elle est encore trop c'est jeune. Par contre, je suis honnête. Vous savez, parfois, elle me pose des questions. « Maman, où tu t'en vas à Noël? » J'avais une quinzaine de sacs là, de cadeaux près de la porte. Puis, elle n'avait pas envie que je m'en aille ce soir-là. Puis, je comprends pas où tu t'en vas. Mm-hmm. Puis je me mets à sa hauteur, je lui dis « Maman,
oui.
elle s'en va porter des cadeaux à des enfants qui n'ont pas de papa et de maman.
Wow. »
Elle le sait que ça existe.
Mm-hmm.
C'est important d'être honnête. Je suis honnête par rapport à ce que je fais dans la vie. Elle le sait. Elle connaît mon implication.
Mm-hmm.
Par contre, je ne lui parle pas de mes blessures.
Oui.
Je pense que elle n'a pas à savoir ça pour l'instant. Elle est trop petite. Un jour, peut-être, quand elle sera plus grande.
Mm-hmm.
Mais elle connaît bien mon investissement envers les enfants.
Oui.
Et puis, elle sourit. Puis parfois, elle me dit, c'est correct, maman. Non, mais c'est important que tu ailles prendre soin des autres oui. enfants aussi. Je peux te partager. C'est ce qu'elle me dit.
C'est merveilleux. Nancy, je ne veux pas vous laisser aller sans que vous nous parliez de votre prochain livre.
J'en rêve depuis tellement longtemps.
Oui.
En fait, j'écris un livre présentement sur la maltraitance.
Mm-hmm.
Ce n'est pas un livre qui va s'adresser à une clientèle universitaire. C'est vraiment un livre qui va s'adresser à monsieur, madame, tout le monde.
Oui.
Pour démystifier. C'est quoi la maltraitance? Pourquoi ça continue de gangréner notre société?
Mm-hmm.
Quelles sont les séquelles liées à la maltraitance? Mais aussi, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, vous et moi?
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour renverser la situation qui perdure depuis trop longtemps au Québec,
mm-hmm.
dans plusieurs de nos communautés? Il y a des communautés qui sont plus fragilisées que d'autres,
mm-hmm.
mais on a le pouvoir d'agir. Et on peut terminer comme ça, si j'ai une profonde certitude aujourd'hui,
oui.
après tout ce que j'ai vécu dans les dernières années, c'est que les solutions vont venir de la communauté. Prenons les choses en main. Prenons soin de ces enfants. Les enfants de la DPJ sont aussi nos enfants.
Wow. Sur ces paroles, Nancy, c'est merci, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Puis je crois qu'on n'aura jamais assez de temps pour parler de ce sujet d'une grande importance. Alors, si vous ne l'avez pas fait encore, chères auditrices, auditeurs, je vous conseille le livre de Nancy Audet, « Plus jamais la honte », publié aux Éditions de l'Homme en 2021. Alors, merci à toute l'équipe, Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion technique. Ici Marjorie Théodore qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine.